Raton et Classic & Co d'Anna Sigalevitch. Merci à vous d'écouter France Inter. Il est 7h.
Le journal Corinne Audouin, bonjour Corinne.
Bonjour à tous.
À la une ce matin, ouf de soulagement pour le gouvernement, la France garde sa note souveraine.
Les agences de notation Moody's et Fitch n'ont pas sanctionné le dérapage des comptes publics. La France garde ses bonnes notes avec une perspective stable. On vous explique pourquoi dès le début de ce journal. Dans l'actualité également, la flamme olympique embarque depuis Athènes, direction Marseille. Et c'est Florent Manaudou qui la portera le premier sur le sol français. Le lycée Averroès de Lille contre-attaque. Les parents d'élèves portent plainte contre l'État pour discrimination. Et puis le match du jour pour l'équipe de France féminine de rugby, France-Angleterre en tournoi des Six Nations avec un espoir de grand chelem.
Les invités de France Inter ce matin à 7h50, on l'a décrit comme la dernière prise de guerre du RN. Avec nous Mathieu Vallet, ancien porte-parole du syndicat indépendant des commissaires, prévu en position éligible sur la liste du parti aux européennes. Et à 8h20, la présidente directrice du musée du Louvre. Au cœur de l'actualité des Jeux Olympiques, aux questions sur la Joconde, nous serons avec Laurence Descartes.
France Inter.
C'était l'inquiétude du gouvernement français, voir la note souveraine de la France dégradée à quelques semaines des européennes du 9 juin. Mais hier soir, les agences américaines Moody's et Fitch n'ont pas sorti le stylo rouge. Elles gardent inchangées les bonnes notes du pays. Ce sont ces notes qui déterminent le taux d'emprunt de la France. Bonjour Agnès Soubiran.
Bonjour.
AA2 et AA- donc, malgré le dérapage du déficit public en 2023 et une dette qui dépasse les 3 000 milliards d'euros. Comment ça s'explique?
Alors c'est vrai que la France n'est pas la meilleure élève de l'Union européenne en matière budgétaire, mais sa dette continue d'intéresser les investisseurs internationaux parce que le système français bancaire est jugé solide, que les réformes et les plans d'économie annoncés par Bercy ont visiblement convaincu, que l'ampleur des patrimoines privés susceptibles d'être taxés en cas de crise rassure, que s'il le fallait, la Banque Centrale Européenne interviendrait pour éviter une nouvelle crise de dette souveraine dans la zone euro. Et qu'enfin, les marchés, malgré les mauvaises nouvelles successives ces dernières semaines, n'ont pas bronché. Les agences ont donc choisi de suivre l'humeur des marchés plutôt que de les précéder.
Et c'est donc une bonne nouvelle pour la France, Agnès.
Oui, bien sûr, cela écarte le risque de voir augmenter le taux d'intérêt que les investisseurs internationaux exigent pour prêter à la France, au moment où le gouvernement s'est engagé à réduire les dépenses publiques et les intérêts de la dette contribuent au déficit qui ne cesse de se creuser. D'ailleurs, Bruno Le Maire l'a dit dès hier soir, cette décision des agences de notation doit nous inciter à redoubler de détermination pour rétablir les finances publiques et tenir l'objectif de repasser sous la barre des 3% de déficit en 2027, grâce notamment au plein emploi et aux réformes de structure.
Merci Agnès Soubiran du service économie de France Inter. Et une troisième note est attendue fin mai, celle de l'agence Standard & Poor's. Il y aura une troisième convention citoyenne après celle sur le climat et celle sur la fin de vie. Emmanuel Macron l'a annoncé hier soir, mais on ne sait pas encore sur quel sujet le président de la République rencontrait les membres de la convention sur la fin de vie. Le blocage est terminé à Sciences Po Paris. Les étudiants pro-palestiniens ont levé le camp hier soir. Après des annonces de la direction, elle s'engage à organiser un débat interne à l'école, notamment sur les partenariats avec des universités israéliennes. Et elle suspend les procédures disciplinaires lancées contre des étudiants participant à ce mouvement. Le conflit au Proche-Orient, pas d'avancée sur un espoir de trêve. Ce matin, le Hamas annonce qu'il étudie une contre-proposition israélienne. Une délégation égyptienne est arrivée hier à Jérusalem pour tenter de relancer les négociations sur une trêve à Gaza.
7h04 sur France Inter, la flamme olympique s'apprête à prendre la mer.
Allumée il y a 11 jours à Olympie, remise hier à Athènes aux Français, la flamme embarquera dans 3 heures environ pour Marseille à bord du Belém. Le président de Paris 2024, Tony Estanguet, a dévoilé le nom du premier porteur sur le sol français. Ce sera le nageur Florent Manaudou. Jérôme Val.
C'est donc lui qui montera sur le Belém à son arrivée devant le vieux port de Marseille après 12 jours en mer. C'est lui qui descendra du 3 mâts la torche à la main. Florent Manaudou, qui a longtemps fait les belles heures du cercle des nageurs de Marseille, a le profil idéal pour être le premier porteur en France, estime Tony Estanguet, le patron des Jeux.
Florent, il nous accompagne depuis la phase de candidature. Il a été régulièrement présent sur tous nos événements. Il est allé dans les écoles, il est monté à Paris plein de fois pour contribuer à l'énergie et à la réussite de cet événement. Il a décidé d'être capitaine du relais de la flamme. Et donc pour moi, ça faisait beaucoup de sens.
Une tâche prestigieuse, comme l'avait fait sa sœur Laure à Olympie la semaine dernière. La médaillée d'or de patinage Gabriela Papadakis a porté la flamme lors de la cérémonie.
Je trouve ça magnifique, d'autant plus que voilà, c'est Laure qui était la première française à Olympie. Donc je trouve que c'est vraiment un beau symbole. Ouais.
D'autres figures de Marseille auraient pu incarner ce premier porteur, rappelle la première adjointe de la ville, Michèle Rubirola.
Il est vrai qu'on attend des Zizou, comme on aime aussi beaucoup Zinedine Zidane. Alors il y en a certains qui seront déçus, probablement, mais bon, il n'y a pas que le foot dans la vie, il y a la natation, et puis la natation est accessible à tout le monde.
Candidat aussi pour être porte-drapeau de la délégation française, Florent Manoudou va connaître en tout cas son premier temps fort dans ces JO.
C'était Jérôme Val depuis Athènes. Le lycée Averroès de Lille contre-attaque, privé de subventions publiques depuis décembre sur décision de la préfecture du Nord. L'association de parents d'élèves de ce lycée privé musulman porte plainte pour discrimination. Le préfet estimait que ce lycée dispensait des enseignements contraires aux valeurs de la République, ce que contestent les parents. Sophie Morland.
L'association s'appuie sur les rapports qui ont souligné l'excellence de ses résultats, un attachement aux valeurs républicaines et une réelle mixité. Mixité entre filles et garçons, entre personnes portant le voile ou non, et une mixité sociale avec un taux d'élèves boursiers de 60%. Mais de l'autre côté, pointe l'association, il y a un acharnement des autorités administratives. 13 inspections de professeurs en 5 ans, 9 contrôles en 3 ans, ce qui fait d'Averroès le lycée le plus surveillé de l'académie. Et puis il y a les arguments avancés par le préfet pour mettre fin au contrat, comme les ouvrages de son CDI pas assez diversifiés. L'association répond avoir fourni au préfet l'intégralité de son fonds documentaire, près de 7000 ressources. Pour toutes ces raisons, l'avocat de l'association dénonce une manipulation de la part du préfet de l'époque, avec des rapports dont certains éléments ont été dénaturés ou passés sous silence. Selon lui, c'est bien la confession des membres de l'association qui a poussé le préfet à résilier ce contrat.
Sophie Morland de France Bleu Nord. La portion de l'A13 fermée depuis le 18 avril dernier ne rouvrira pas le 1er mai, comme cela avait été précédemment annoncé. L'autoroute A13 fermée dans les deux sens entre Paris et Vaucresson en raison d'une fissure importante sur la chaussée.
7h07, direction le pôle sud. Corinne, on prend des nouvelles des manchots empereurs.
Une espèce emblématique, on s'en souvient, héroïne du documentaire de Luc Jacquet, La Marche de l'Empereur. 18 ans après ce film oscarisé, comment vont ces manchots empereurs? Eh bien, pas bien du tout, d'après une étude de la British Antarctic Survey. Sandy Dauphin.
Vous avez peut-être vu ces images de jeunes manchots empereurs qui se jettent à l'eau depuis la banquise pour la première fois. Ils apprennent à nager, plonger et se nourrir. Et bien, ce rite de passage est bouleversé par le réchauffement climatique. Les poussins naissent en juillet et août pendant le rude hiver austral. Ils sont élevés sur la banquise côtière. Lorsque l'été arrive en décembre-janvier, la banquise fond, les poussins prennent le large. Sauf que désormais, la glace fond et se morcelle plus tôt dans la saison, trop tôt pour les poussins. Ils plongent alors qu'ils ne sont pas prêts. Ils n'ont pas toujours développé leurs plumes imperméables. En 2023, baisse record de la banquise, c'est la deuxième pire année de mortalité des poussins depuis le début des observations en 2018. 14 des 66 colonies ont été affectées par la fonte précoce et les scientifiques de l'Institut polaire britannique, le British Antarctic Survey, alertent au rythme actuel des émissions de CO2, la population de manchots empereurs devrait chuter de 99% d'ici la fin du siècle.
Sandy Dauphin. En rugby, c'est le match à ne pas manquer aujourd'hui. Les Françaises reçoivent l'Angleterre. En dernier jour du tournoi des Six Nations, les deux équipes sont pour le moment invaincues. En jeu donc le Grand Chelem, un titre qui revient depuis 6 ans aux Anglaises. Mais pas question de partir battu d'avance, prévient la troisième ligne, Gaëlle Hermé.
Pas du tout une revanche dans le sens où c'est une nouvelle saison, un nouveau groupe et c'est plus... Ouais, il y a ces petites boules au ventre, mais pas de stress négatif, plutôt d'impatience de jouer en France devant un stade dans lequel on va battre le record d'affluence français. Donc, je pense qu'il y a vraiment de l'excitation de pouvoir jouer ce match. On s'était fixé comme objectif de pouvoir jouer une finale, c'est le cas, donc maintenant il n'y a plus qu'à.
France-Angleterre à Bordeaux à 17h45, devant en effet, en tout cas on en attend 27 000 spectateurs.
C'était le journal de Corinne Audouin à suivre le Zoom sur la réforme du droit du sol à Mayotte.
Aujourd'hui sur France Inter, la patronne de Veolia, dans On n'arrête pas l'écho.
Samedi 9h, Alexandra Ben Saïd.
Question sur l'accès à l'eau, sa qualité, son prix, et puis sur cette école de la transformation écologique que vient de lancer le géant mondial, Estelle Brachlianoff est mon invitée.
On n'arrête pas l'écho, l'actualité et les coulisses de l'économie.
Tous les samedis sur France Inter, après le journal de 9h.
Avec la CARAC, mutuelle d'épargne et de retraite engagée pour votre patrimoine. Rendez-vous sur carac.fr.
Filmo, la première plateforme de streaming 100% cinéma. Classique, découverte, cinéaste d'aujourd'hui et de demain. Chaque mois, retrouvez des milliers de films des plus grands réalisateurs et réalisatrices. Avec Filmo, accédez au meilleur des cinémas. Des émissions exclusives, des films inédits que vous ne verrez nulle part ailleurs. Osez les classiques, osez les découvertes, osez Filmo. Pour seulement 6,99€ par mois. Et en ce moment, profitez de l'essai offert et sans engagement sur filmotv.fr.
Merci d'écouter Inter, il est 7h10.
Le 6-9, Ali Badou, Marion Lourd sur France Inter.
Ils nous ont rejoints pour la prochaine demi-heure. Alain Baraton, Anna Sigalevitch, Laurent Delmas. Bonjour les amis.
Bonjour.
Bonjour.
Laurent, autour de quoi faites-vous votre cinéma ce matin ?
L'empereur et les musiques de film, c'est tout ce que j'ai à dire.
Dans la main verte, Alain ?
Jardin en scène, cette manifestation incontournable pour votre plus grand bonheur.
Et puis Anna, de quoi parle-t-on dans Classic & Co ?
De Vêpres de Monteverdi à l'Opéra Royal de Versailles.
Mais tout de suite, le zoom. Le projet de loi Mayotte sera présenté en Conseil des ministres début juillet. Il prévoit, vous le savez, une réforme constitutionnelle du droit du sol sur cette petite île française de l'océan Indien. Ce serait inédit dans la République une et indivisible. Le projet est censé dissuader les migrants de venir clandestinement à Mayotte, où le taux de natalité est le plus élevé de France. Bonjour Sophie Parmentier.
Bonjour.
Vous vous êtes rendu dans la maternité de Mamoudzou, la principale ville de l'île où l'affluence atteint des records.
On arrive à la maternité de Mamoudzou, c'est la plus grosse de France, avec plus de 10 000 naissances l'an dernier. Dans la cour, à l'entrée, des femmes et de très jeunes filles enceintes sont allongées par terre, à même le sol de béton.
C'est ma petite sœur.
C'est votre petite sœur qui va accoucher ?
Oui, il est un terme, mais malheureusement, c'est très dur, mais on n'a pas le choix.
Elle a quel âge, votre petite sœur ?
Elle a 16 ans.
Et c'est son premier bébé ?
Oui. Je sais qu'il a mal. Allez, courage.
La grande sœur aide sa cadette à se relever. Elle s'éloigne. On s'approche d'une autre mère qui cache son visage derrière un foulard sous un soleil brûlant. Bonjour madame, vous êtes sur le point d'accoucher, vous ?
Non, pas encore.
Vous venez des Comores, vous aussi ?
Oui, oui. Mais je suis arrivée en Kwassa avec ma mère.
Les Kwassa-Kwassa, ces bateaux de fortune dans lesquels embarquent des migrants sur l'océan Indien.
Ça fait vraiment longtemps que je suis à Mayotte.
Pourquoi vous êtes venue à Mayotte ?
Je ne sais pas, moi j'étais petite, c'est ma mère qui m'a amenée ici.
Et là, si vous accouchez à Mayotte, votre bébé, il aura des papiers français ?
Ça se peut, oui. Son père, lui, il est français. Mon enfant, il peut avoir des papiers.
C'est mieux pour lui, vous trouvez ?
Oui, ça c'est sûr, c'est mieux pour lui. Hein.
Et pour vous ?
Et pour moi aussi, parce que je peux chercher un titre de séjour pour ma vie à Mayotte. Parce qu'à Mayotte, ici, vous savez, si on n'a pas de papier...
Pour l'instant, vous n'avez pas de papier ?
Non, j'en ai pas.
Et ça vous est déjà arrivé d'être renvoyé aux Comores ?
Oui, quatre fois.
Quatre fois, vous avez été renvoyé ?
Oui, oui.
Et quatre fois, vous êtes revenu en Kwassa-Kwassa ?
Oui, oui, parce que là-bas... C'est pas comme ici, en fait. Pour cela que tous les Comoriens, tous les jeunes viennent à Mayotte ici. Parce que là-bas, la vie est difficile, madame.
Vous pensez que vous allez accoucher quand, là, madame ?
Un mois de juin, Inch'Allah.
Et le climat d'insécurité sur l'île ne cesse de se dégrader. La semaine dernière, le gouvernement a lancé une nouvelle opération Wambushu, rebaptisée Place Net, pour démanteler des bidonvilles et interpeller des chefs de bande. Sophie Parmentier, vous avez suivi une patrouille de police sur l'île.
Bonjour, donc le brigadier chef Kellerny, je suis adjoint du groupe Gao.
Et on vous appelle aussi la police basket ici à Mayotte.
C'est un surnom qui a été donné sur l'île, effectivement.
Parce que vous courez beaucoup après les clandestins ?
Pour ceux qui s'enfuient.
On embarque avec vous dans la voiture ?
C'est parti. Allez, c'est parti. Il n'y a pas de notion de repérage, je sais qu'on contrôle les personnes qui sont devant nous. Moi, je suis incapable de faire la différence entre un Maorais, un Comorien, un Français. La seule chose qui les distingue, c'est une plaisanterie. Merci, voilà, ça se passe tout simplement comme ça. Donc, c'est au feeling, mais dans l'absolu, on fait du contrôle de masse.
Là, on ferme les vitres parce qu'on risque d'être un caillassage. Vous êtes souvent caillassé ?
Mais là, les caillassages, ça devient quotidien pour tout le monde. C'est désespérant. Et le problème du caillou, c'est qu'on ne le voit pas arriver. La plupart des jeunes qui nous caillassent, au départ, c'est des fantômes. C'est la pluie de cailloux qui tombe sur le véhicule. Ça peut aller du gamin de 8 ans à 25 ans, 30 ans. Et oui, la nouveauté maintenant, c'est qu'ils vous lancent des barres de fer affûtées qui, quand touche le véhicule, le perforent.
Vous n'avez jamais été blessé, vous ?
Blessé physiquement sur une intervention, non, pas pour le moment.
Mayotte, le droit du sol en question. C'est un reportage de Sophie Parmentier avec Gilles Gallinaro à écouter en intégralité demain à 9h10 dans l'émission Interception et en podcast dès aujourd'hui sur le site de France Inter et les applications de Radio France. Il est 7h15. Vive le cinéma! Comme tous les samedis matins sur Inter, Laurent Delmas, vous nous faites votre cinéma. C'est le cinéma Paradiso. Et ce matin, vous nous parlez d'une légende absolue.
Oui, Ali, il a le nom anglo-saxon le plus passe-partout du monde, ou presque, et c'est pourtant le compositeur de la musique des films qui vous ont, nous ont terrorisé, captivé, tenu en haleine, fait retomber en enfance, ou bien encore ému jusqu'aux larmes.
C'est vrai.
Oui, John Williams, car c'est bien de lui dont il sera question ce matin, est une composante essentielle des plus grands succès cinématographiques de ces 60 dernières années. Vous en doutez ?
Non.
Ah, alors un petit quiz quand même pour commencer. Voici enchaîné 5 de ses plus grandes BO. Vous les reconnaîtrez. Et oui, je vous en ai même mis 6 pour le prix de 5. Et ce n'est évidemment qu'un petit aperçu de l'œuvre de ce compositeur. Alors,
on n'a pas tout dit, on a joué, on a fait le quiz, mais
vous avez,
je ne les avais pas toutes, moi.
Vous avez tout gagné. Harry Potter, E.T., Jurassic Park,
voilà.
Star Wars, Les Dents de la Mer et La Liste de Schindler.
Ah bah voilà.
Voilà. Allez, c'est désormais effectivement qu'un tout petit aperçu de l'œuvre de ce compositeur, désormais âgé de 91 ans. Si je vous en parle aujourd'hui, c'est parce que vient de paraître aux éditions Third un livre de Jean-Christophe Manusso intitulé « L'œuvre de John Williams, le chef d'orchestre des émotions ». En 300 pages bien tassées, l'auteur réussit à embrasser l'ensemble d'un univers musical d'une incroyable richesse. On découvre ainsi que les dizaines de partitions écrites pour Spielberg, on vient d'en entendre,
oui,
ce ne sont que la partie visible de l'iceberg nommé Williams.
Parce que beaucoup d'autres cinéastes ont fait appel à lui.
Oui, Marion, c'est le moins qu'on puisse dire. Hein. Certes, la première collaboration avec Spielberg date de 1974, avec Sugarland Express. Mais Williams signe sa première BO 14 ans plus tôt, en 1960, et obtient 10 ans plus tard son premier Oscar pour Un violon sur le toit. Jusqu'à la BO d'Indiana Jones et le cadran de la destinée.
J'allais vous dire que vous l'aviez oublié, Indiana Jones.
Ah oui, ah bah attendez, mais ma chronique n'est pas terminée. Hein.
Mais loin de là.
Et très très loin de là, je vous le dis, j'ai pris une heure ce matin. Donc, Indiana Jones, c'est le cadran de la destinée de James Mangold. L'année passée, Williams a composé pour Altman, Hitchcock, Penn, De Palma, Miller, Stone, Pacula, Pollack, Lucas, entre autres. Sans oublier les séries télé et une quarantaine de concertos, sonates, duos et autres quatuors de musique classique. Au bout du compte, un lyrisme adapté à chaque film. La BO écrite par Williams est associée définitivement aux images. Pas étonnant alors que des orchestres symphoniques s'emparent régulièrement de l'une de ses partitions. On se quitte ainsi, ça y est, avec celle devenue mythique d'Indiana Jones.
Merci.
Mais je vous en prie.
Un petit coup de fouet.
Mais c'est un cadeau du matin, écrite pour Spielberg en 1981 et jouée ici par le Philharmonique de Berlin sous la direction de, j'ai demandé à Anna Sigalevitch, Simon Rattle.
Il a été nommé 54 fois aux Oscars. Oui. C'est
absolument
la deuxième personne la plus nommée après Walt Disney. C'est incroyable.
On comprend pourquoi.
L'œuvre de John Williams, le chef d'orchestre des émotions de Jean-Christophe Manusso, c'est aux éditions Third. Merci Laurent Delmas. On vous retrouve à partir de 10h dans On aura tout vu avec Christine Masson.
Oui, hommage à Laurent Canté, évidemment, et focus sur le film Une affaire de principe.
À tout à l'heure. Tout de suite, voilà. La main verte.
le 6-9 sur France Inter.
Et c'est l'heure de retrouver notre jardinier préféré, le jardinier de France Inter, Alain Baraton. Jardin en Seine fête demain ses 14 ans d'existence.
Et oui, ils seront présents à cette manifestation des pépiniéristes et des horticulteurs qui vous proposeront des plantes de toutes sortes, mais il y aura aussi des artisans, des ateliers participatifs et, j'adore, un espace consacré au troc, à savoir une bourse d'échange entre particuliers. Jardin en Seine, attention Seine, ça vient du nom du fleuve, c'est à Caudebec-en-Caux, dans le département de la Seine-Maritime.
Et dans le département de l'Essonne, Saint-Jean de Beauregard présente sa 40e édition de la fête des plantes.
Est-il vraiment nécessaire de rappeler que cette manifestation des plantes est au jardin, ce que Roland Garros est au tennis? Ah oui, toujours pas une ride pour cette manifestation incontournable pour les amateurs de jardin et surtout de plantes rares. C'est dans le département de l'Essonne. Je voudrais aussi signaler la fête des plantes et des jardins de Montfort-l'Amaury dans les Yvelines. Ça se passe au pied des remparts de la magnifique petite cité médiévale.
Un livre a aussi retenu votre attention,
oui,
Alain ?
Oui, son titre est explicite. Jardin du Val-de-Loire, histoire et patrimoine. Près de 50 parcs et jardins sont présentés dans cet ouvrage réalisé par Charlène Potillion. Elle est historienne de l'art. De quoi trouver de bien belles idées de promenade. Jardin du Val-de-Loire est publié par les éditions Sutton et c'est une sélection de la Nouvelle République.
On passe aux questions des auditeurs traditionnels. Alain, Jean vous demande, les feuilles de mon laurier sauce sont tachées de noir, est-ce mauvais signe?
C'est de l'anthracnose, une maladie qui est favorisée, c'est un champignon, par l'humidité et la chaleur. C'est difficile de lutter contre un champignon, donc au lieu d'éviter, au lieu de traiter, prenons les mesures qui permettront d'éviter son installation. Respectez les distances de plantation, n'arrosez pas de manière outrancière. N'hésitez pas à tailler le végétal pour que le soleil puisse vraiment pénétrer le cœur de la ramure. Et puis là, maintenant, c'est trop tard pour traiter. On vous trouvera toujours des produits pour traiter, paraît-il, dans couper les parties trop infectées, évacuez-les, et puis espérez que le soleil, enfin, revienne comme il devrait l'être. Nous sommes bientôt à quelques jours du mois de mai. Quand même, il serait temps maintenant que les températures deviennent agréables.
Il serait temps, en effet. Oui. Marianne aimerait savoir comment il faut tailler très précisément ces rosiers grimpants.
Je ne sais pas si vous avez la main verte, Marion, mais je vais vous donner un petit conseil qui est très simple. Quand vous regardez un rosier grimpant, vous le regardez déjà avec beaucoup de tendresse. Bah oui, c'est important. La plante est peut-être capable de sentir l'amour que vous lui portez. Puis vous coupez les fleurs fanées, car les fleurs fanées se développent, ensuite se transforment en graines, puis en fruits. Ça épuise le végétal. Vous coupez les branches gênantes, vous coupez les branches mal positionnées, bien sûr les branches plantes, et c'est tout. Ça ne demande rien d'autre.
Roger veut savoir pourquoi les feuilles des narcisses sont recouvertes d'une poudre grise et surtout ce qu'il peut faire.
Après l'anthracnose du laurier, le botrytis ou la pourriture grise des plantes à bulbes, et en particulier des narcisses, il n'y a pas grand-chose à faire parce que le bulbe va être attaqué. Eh bien, vous éliminez tout simplement le végétal qui est infesté. Les narcisses ne refleuriront que l'an prochain. Ne vous embarrassez pas, n'allez pas mettre des produits qui ne serviront à rien. Malheureusement, là encore, l'excès d'humidité et de chaleur provoque les dégâts que nous constatons.
Et puis, question de Clotilde, les campanules sont-elles de culture facile?
C'est beau les campanules, j'adore ces campanules, on dirait ces plantes de bande dessinée, ces grosses clochettes blanches, roses ou bleues qui pendent vers le ciel, mais c'est gai, c'est agréable. Elles se sèment directement sur place en avril-mai, c'est une plante facile de culture, simple à cultiver et tellement belle à regarder.
Et on passe à la dernière question, celle de Fanny. J'ai beau mettre de l'engrais, ma glycine ne fleurit toujours pas. Pourquoi?
Parce que vous mettez de l'engrais, arrêtez de mettre de l'engrais. La glycine est une plante sauvage, elle aime bien être tranquille, elle aime se développer naturellement et quand on met de l'engrais, on développe les tiges, les racines au détriment de la floraison. Une plante ne peut pas produire en simultané des fleurs, des tiges, des racines. Non, la plante elle sectorise. Donc quand vous mettez de l'engrais, la plante elle est contente, elle pousse et ça au détriment de la fleur. Vous verrez, ne mettez pas d'engrais, attendez quelques temps et elle fleurira pour votre plus grand bonheur.
C'était la main verte, merci Alain Baraton.
Le 6-9 sur France Inter.
7h25 et la joie de retrouver Classic & Co avec vous, Anna Sigalevitch. De la musique baroque ce matin, avec au programme par Vincent Dumestre et son ensemble Le Poème Harmonique. Ils vont jouer demain à la Chapelle Royale de Versailles des Vêpres de Monteverdi.
Oui, alors quand on dit les Vêpres de Monteverdi, on pense à une œuvre précise et définitive, considérée à juste titre comme l'un des grands chefs-d'œuvre de la littérature baroque, dont l'Introitus reprend le thème qui ouvre son opéra L'Orfeo. Mais en fait, m'a expliqué Vincent Dumestre, le recueil qu'on connaît, publié en 1610, n'est qu'un instantané, car Monteverdi a sans doute composé des centaines de vêpres à la Vierge, dont le poème harmonique nous propose ici une recréation en puisant dans son testament musical la Selva Morale et Spirituale.
La Selva Morale et Spirituale, ça signifie littéralement la forêt morale et spirituelle.
Oui, c'est un recueil d'œuvres sacrées publié en 1643, soit quelques mois avant la mort de Monteverdi, qui est comme une compilation de son art, un vivier musical à destination de la postérité. L'extrait du Dixit Dominus qu'on écoute est un exemple intéressant, m'a dit Vincent Dumestre, de l'évolution du style de Monteverdi. On a ici une pièce composée dans le style moderne, c'est-à-dire avec une écriture contrastée où le texte est mis en valeur.
Les vêpres, du latin vesper, soirée, c'est la prière du soir dans le christianisme.
Oui, qui a pour squelette six psaumes, auxquels on a ajouté des motets, composés eux plus librement. La musique du Stabat Virgo qu'on écoute provient d'un célèbre madrigal de Monteverdi, l'une des nombreuses pièces profanes du compositeur, dont le librettiste Aquilino Coppini fut chargé par l'Église de transposer sur le mode sacré tant elles étaient puissantes. C'est passionnant d'entendre Vincent Dumestre parler de cette musique, et la jouer bien sûr aussi, parce qu'on sent dans sa façon de l'appréhender à la fois la volonté de revenir aux sources et au contexte de la création, mais surtout le désir de sortir la musique baroque de quelque chose de muséal, alors qu'elle regorge de trésors inexplorés avec lesquels on peut, comme le faisaient les compositeurs à l'époque, s'amuser et recréer à l'envi.
L'introitus, définition, Anna.
C'est le début, c'est le début des vêpres à la Vierge.
Passion, musique classique.
L'introduction.
Les vêpres tardives de Monteverdi par Vincent Dumestre avec le poème harmonique. Ce sera donc à découvrir demain à l'Opéra Royal du Château de Versailles. Motet,
ben c'est les compositions libres entre les psaumes. Non, je sais, c'est tout un lexique. Mais voilà, j'espère que
j'ai un petit peu clair. Des tas de choses. L'introitus. Merci Anna et merci à Anne Weinfeld pour la réalisation.
Politica. Immigration.
Démocratie.
Cette année, on vote pour les élections européennes. France Inter se mobilise dans nos émissions et sur le terrain. Quels sont les enjeux? Que proposent les candidats? On vous donne les clés pour comprendre.
Ce lundi, le 18-20 est à Madrid, l'Espagne parmi les pays les plus pro-européens, mais aux multiples identités fortes, l'Espagne aux avant-postes du changement climatique et à la pointe du féminisme.
Europe et Europe. Europa.
France Inter, la radio des Européens.
7h29.
La météo avec Euromaster. Toujours là pour entretenir les véhicules des pros et des particuliers. Véhicules électriques, hybrides ou thermiques. Devis et rendez-vous en ligne, tout simplement, sur euromaster.fr.
Céline Dacosta, le ciel est bien couvert aujourd'hui.
Oui, sauf sur l'est du pays où on aura encore quelques éclaircies, un temps relativement sec. Partout ailleurs, des averses parfois soutenues, localement orageuses. Des orages forts avec des chutes de grêle sont attendues dans l'après-midi et dans la soirée. Sur le sud-ouest, où 8 départements sont en vigilance orange-orage, à tout ça on rajoute un vent fort, 100 km à l'heure parfois sous les orages. De la neige encore sur les Pyrénées et les Alpes au-dessus de 1900 mètres et des températures qui remontent enfin. Après 11 jours de fraîcheur, on revient des normales de saison cet après-midi, 13 à 23 degrés du nord au sud. Ce matin, encore un peu de fraîcheur sur la moitié nord, 4 à 10 degrés. C'est plus doux au sud avec 11 à 14.
Merci Céline Dacosta.
Et merci à vous d'écouter France Inter. Il est 7h30.
Le journal Laurence Thomas. Bonjour Laurence.
Bonjour Ali, bonjour à tous. Après une journée sous tension, le blocus des étudiants pro-palestiniens de Sciences Po a été levé. Le soulagement au gouvernement, la France échappe à la sanction des agences de notation Fitch et Moody's. Les cas de dingue au plus haut en France. Le moustique tigre, surveillé de très très près à Marseille, ville de la Marina Olympique. Des pièges sont en train d'être installés. Et puis ce sont des résistantes, les librairies indépendantes. Elles sont 650 en France et c'est leur fête aujourd'hui.
À 7h50, quand un nouveau venu au Rassemblement National, l'ancien chef adjoint de la BAC du Val-de-Marne, ancien porte-parole du syndicat indépendant des commissaires, attendu en position éligible sur la liste Rassemblement National aux élections européennes du 9 juin, Mathieu Vallet sera en studio avec nous.
France Inter. Les étudiants ont levé hier soir le blocage de Sciences Po Paris, Laurence.
Les locaux avaient été investis dans la nuit de jeudi à vendredi par des militants de la cause palestinienne. Ils réclamaient de leur direction des prises de position plus claires sur l'action israélienne dans Gaza, l'arrêt des partenariats avec les universités de l'État hébreu. Finalement, dans la soirée, un début d'accord a été trouvé. Les centaines de manifestants qui bloquaient la rue sont partis, tout comme la soixantaine d'étudiants qui se trouvaient à l'intérieur de Sciences Po. Willy Moreau.
La soixantaine d'étudiants qui bloquaient le bâtiment sort sous les applaudissements. Un mail vient d'être envoyé. La direction accepte une assemblée d'ici jeudi prochain sur les différentes revendications.
Ce petit mail, il est énorme en fait finalement et ça leur a coûté des heures de négociation.
Tarroi, l'une des principales mobilisées.
Ce qu'on a obtenu, c'est une réunion avec au moins une partie de l'administration, les décideurs en fait, et traiter justement nos demandes en fait.
Les jeunes dansent autour d'un immense drapeau palestinien, une effusion de joie, mais une prudence également pour cet étudiant.
On n'a pas gagné. On verra quelles seront les suites des événements. Ce qu'on demande à Sciences Po, c'est qu'à la hauteur de ses moyens, elle mette en place des choses qu'elle avait mises en place par le passé sur d'autres conflits.
Des partenariats avec des universités russes ont été stoppés après la guerre en Ukraine, notamment. Désormais, certains espèrent que le mouvement fera tache d'huile dans d'autres universités.
C'est l'objectif, c'est que ça fasse du bruit en France, comme ça l'a fait aux États-Unis et en Irlande et en Angleterre. Il faut que ça le fasse en France aussi. Un mouvement plus homogène fait plus de bruit et aura beaucoup plus d'impact.
Un mouvement aussi politique, avec une présence remarquable d'élus France Insoumise. Elle a été très appréciée par ses étudiants.
Willy Moreau. Les pourparlers de trêve entre Israël et le Hamas relancés, la contre-proposition israélienne est désormais entre les mains du mouvement islamiste palestinien. Les détails ne sont pas connus, mais les deux parties, on le sait, s'opposent, entre autres, sur un cessez-le-feu permanent ou une trêve voulue par Israël. Selon la presse israélienne, une vingtaine d'otages pourraient être libérés. Et puis ajoutons que l'Union européenne a annoncé une nouvelle aide humanitaire de 68 millions d'euros aux Palestiniens de Gaza. Les agences Moody's et Fitch maintiennent inchangée la note souveraine de la France malgré la dégradation des finances publiques du pays. On en reparle dans 10 minutes dans l'édito écho d'Alexandra Ben Saïd. Ce que vous avez fait, ce n'est pas un sondage. Emmanuel Macron a remercié hier soir celles et ceux qui ont participé à la Convention citoyenne sur l'accompagnement de la fin de vie. Il leur a présenté le projet de loi, largement inspiré de leurs travaux, qui sera examiné à l'Assemblée le mois prochain. Et dans un exercice de questions-réponses, il a défendu ses choix. Maxence Lambrecq.
Le micro a bien circulé.
Je me fais un petit peu provocateur. Est-ce que si on avait été 75% des conventionnels à être contre l'aide à mourir, est-ce que vous auriez suivi cette recommandation?
Je peux vous dire que je n'aurais pas engagé le travail gouvernemental qu'on a mené. Ça, oui. Parce que vous auriez créé une situation qui rendait quasiment impossible le fait d'ouvrir ce chemin.
Deuxième question sur le consentement.
Qu'est-ce que vous faites des personnes qui, au fur et à mesure de la maladie, perdent leur capacité cognitive et ne peuvent plus prendre de décision? Est-ce que c'est la famille qui prend la décision? Comment ça se passe?
Si quelqu'un a perdu son consentement et n'avait pas ou exprimé dans des directives anticipées des choses, n'a pas réitéré avant de perdre son consentement, eh bien il ne pourra pas être éligible à l'aide à mourir.
Sauf si les parlementaires en décident autrement, ajoute-t-il prudemment. Il relativise l'opposition des professionnels des soins palliatifs.
Ces derniers sont beaucoup plus nuancé qu'on ne veut parfois le dire dans le débat public, et j'ai pu, en me rendant moi-même dans plusieurs de ces services, constater qu'ils exprimaient eux-mêmes le besoin de répondre à ces cas.
Des opposants à ses yeux moins nombreux qu'on ne le dit. Sans fixer de date, il donne rendez-vous aux 184 conventionnels pour la promulgation de la loi.
Maxence Lambrec, des produits dangereux pour la santé, écoulés comme un trafic de drogue. Le réseau vendait clandestinement des produits anabolisants à destination de culturistes depuis 4 ans. Le principal suspect dans cette affaire est un Français qui vivait en Espagne. Il a été interpellé il y a 2 semaines et il devra s'expliquer aujourd'hui devant un juge avant sa mise en examen. Marianne Grissel.
Au moment de son interpellation, cet homme d'une 50aine d'années, lui-même ancien culturiste, vivait dans une luxueuse maison près d'Alicante, 300 mètres carrés, décrit comme très protégé. Il faut dire que le réseau qu'il est soupçonné d'avoir géré n'avait rien à envier aux trafiquants de drogue, une organisation à l'échelle internationale.
C'est des produits dont on a déterminé qu'ils étaient pour la plupart fabriqués dans les pays de l'Est.
Le lieutenant-colonel Thierry Cassagne dirige à la section de recherche de Marseille le détachement de Fréjus, chargé de cette enquête.
Les livraisons se faisaient par voie postale essentiellement et en contrepartie, le client renvoyait des sommes en espèces ou inversement en fonction du degré de confiance qui existait entre ces individus.
La publicité pour ces produits était faite par les réseaux sociaux ou le bouche à oreille jusque dans les salles de sport. Les gendarmes sont alertés début 2023. Au fil de leurs investigations en lien avec leurs homologues espagnols, ils retrouvent pour plus de 360 000 euros de produits interdits car dangereux.
Des problématiques d'infertilité, des problèmes musculaires et tendineux, des problèmes cardiaques, d'hypertension artérielle, des risques d'AVC, ça peut aussi être des lésions au niveau du foie.
9 autres personnes ont été interpellées en France dans le cadre de cette enquête. L'homme soupçonné d'être à la tête de ce réseau, celui qui vivait en Espagne, a lui déjà été condamné il y a quelques années pour des faits similaires.
7h37, il est dangereux lui aussi pour la santé, c'est le moustique tigre.
Et il fait l'objet de toutes les attentions en vue des Jeux Olympiques, car à 3 mois d'IGO, comment éviter que l'insecte ne vienne gâcher la fête? Car il se propage désormais partout en France. Il véhicule des maladies comme la dengue. 45 cas autochtones transmis par le moustique tigre recensés l'an dernier dans l'Hexagone selon Santé publique France. Alors pour protéger les athlètes et les spectateurs bien sûr pendant les JO, la ville de Marseille a fait installer des pièges sur le site de la Marina Olympique où vont se dérouler les épreuves de voile, Mathilde Vinceneux.
15 pièges sont répartis sur une surface d'un hectare. Antoine Cohen est responsable technique pour Biogent, la société qui a remporté l'appel d'offres de la mairie de Marseille pour protéger la Marina Olympique.
Alors les pièges, ils sont protégés dans des caissons pour éviter tout risque de vandalisme ou même d'accident. Ils fonctionnent sur des panneaux solaires. C'est des pièges qui vont donc reproduire les odeurs et les flux d'air du corps humain pour attirer le moustique et les capturer.
Il n'y a donc pas d'insecticides dans ces pièges, seulement des odeurs. La mairie espère ainsi limiter la transmission de maladies alors que les JO vont attirer des visiteurs du monde entier. Les moustiques tigres pourraient transporter le Zika ou encore la dengue.
La dengue cette année est particulièrement préoccupante puisqu'il y a une épidémie importante en Amérique du Sud et dans les Antilles.
Grégory Lambert est entomologiste médical à l'EID, l'entente interdépartementale pour la démoustication du littoral méditerranéen.
Même si on a un réseau de pièges qui est bien installé, on ne peut pas non plus garantir l'absence totale de risque de transmission locale. Nos moustiques sont capables de se multiplier par 200 tous les 15 jours.
Pour lutter, il faut donc surtout empêcher qu'ils ne se reproduisent, faire la chasse à l'eau stagnante dans les jardins, les balcons. Quelques millimètres suffisent pour que des larves se développent.
On évoquait la Marina Olympique des JO, et bien à chercher la flamme. Elle sera ce matin à 9h30 à bord du 3 mois, le Belém, pour rejoindre Marseille le 8 mai avant d'entamer ensuite son long voyage à travers la France. Hier en Grèce, Tony Estanguet, le patron de Paris 2024, a annoncé que le nageur Florent Manoudou sera le premier porteur de la flamme olympique à son arrivée dans la cité phocéenne. Et aujourd'hui, on célèbre les librairies indépendantes, des résistantes à l'heure de la concurrence d'Amazon et des grandes enseignes telles la FNAC, Leclerc, Culturel, etc. Pour l'occasion, chaque librairie indépendante offrira à ses clients une rose ou un livre de poésie, une façon de remercier ses clients qui soutiennent les commerces de proximité. Jules Hoss de France Bleu, Belfort-Montbéliard.
J'achète pas mes livres à la FNAC.
Roselyne est une habituée des petites librairies.
C'est important, puis un libraire, c'est pas un épicier, c'est un libraire.
il connaît les livres. Ça fait partie du lien. La libraire est une amie aussi. C'est, on est amis par les livres.
Son amie, c'est Caroline, de la librairie jeunesse La Marmite à mots à Belfort. Depuis 12 ans, elle noue ses relations très particulières avec les lecteurs.
Je pense aux clients qui sont passés ce matin. C'est des enfants qu'on voit grandir, c'est des enfants qu'on accompagne, c'est aussi des parents qu'on accompagne. Oui, il y a des choses qui se nouent et qui, pour moi, peuvent forcément se nouer dans des lieux beaucoup plus gros, en fait.
C'est justement ce côté chaleureux que cherche Soumia, 20 ans. Elle a découvert, par hasard, la librairie du Chaborgne à Belfort.
Je trouve que c'est plus humain, en fait. Il y a souvent une sélection avec des petits post-it et tout, et j'aime bien les avis comme ça.
Et les lecteurs deviennent aussi prescripteurs.
Caroline Gély est la gérante de la librairie.
Si un polar vous a empêché de dormir pendant 3 nuits, mettez ça sur le livre parce que ça va le faire ressortir et c'est ça aussi une librairie indépendante, c'est pas un algorithme. L'algorithme, c'est l'humain, donc ça veut dire une diversité de choix géniale.
Une diversité célébrée ce samedi dans toutes les librairies indépendantes de France.
Il va falloir être patient. Une semaine déjà que l'autoroute A13 au port de Paris est fermée dans les deux sens entre la capitale et Vaucresson à cause d'un mouvement de terrain et d'une fissure importante. Eh bien, la fermeture est prolongée. L'A13 ne rouvrira pas comme prévu à la circulation le 1er mai.
C'est le journal de Laurence Thomas. À suivre, la France pas si mal notée en économie, c'est dans l'édito Écho. Et notre astronaute française, portrait dans la chronique, on va en reparler.
1804, l'exécution du duc d'Enghien.
Dimanche, 21h, Stéphanie Duncan.
En mars 1804, Bonaparte faisait enlever et fusiller ce prince de sang. Et 2 mois plus tard, il proclamait l'Empire.
Nous sommes là pour exécuter la sentence. Mais je voudrais voir le général Bonaparte. Et lui parler, cela ne se peut pas.
Autant en emporte l'histoire.
Tous les dimanches à 21h sur Inter et en podcast quand vous voulez.
France Inter, 7h41.
La chronique écho avec la CARAC, mutuelle d'épargne et de retraite engagée pour votre patrimoine. Rendez-vous sur carac.fr.
La chronique écho avec vous, Alexandra Ben Saïd. Bonjour Alexandra.
Bonjour tout le monde.
Vous avez l'air joyeuse. Les agences de notation Fitch et Moody's ne dégradent pas la note de la France. Notre note est inchangée.
Ouais, joyeuse, c'est un peu trop. Pas de quoi pavoiser, mais pas de quoi dégrader. C'est ça l'appréciation tombée cette nuit. Pas de quoi pavoiser, Ali, bien sûr. Hein. Ça fait 3 mois que l'on sait, au moins 3 mois, que la situation de nos finances publiques, nos FIPU, s'est aggravée. Croissance revue à la baisse, déficit revue à la hausse. Toujours une dette autour de 3 000 milliards d'euros. Ces dernières semaines, Moody's et Fitch nous ont d'ailleurs mis de gros avertissements au stylo rouge, comme la Cour des comptes, comme le Haut Conseil des finances publiques. L'objectif affiché à Bercy de ramener le déficit sous les 3% en 2027 leur paraît improbable, de plus en plus hors de portée. Malgré les coupes annoncées et les crédits gelés, puis aussi c'est d'ailleurs l'effet pervers, justement parce que ces dizaines de milliards qui ne seront pas injectés par l'État dans l'économie vont entraver l'activité. Bref, c'est pas terrible. Fitch nous rappelle cette nuit que pour le déficit comme pour la dette, dans la catégorie double A où nous nous trouvons, beaucoup d'autres pays font mieux que nous.
Donc, pas de quoi pavoiser Alexandra et pour autant, pas de quoi dégrader. Et
à quoi servent ces agences, Marion ? À dire aux investisseurs s'ils peuvent prêter, s'ils seront bien remboursés. Et donc, elles considèrent que, malgré le dérapage des finances publiques, Paris va continuer à payer ses dettes. Et ça, c'est très important pour nous, les Français, qui demandons tant aux marchés financiers. Cette année, les traders de la République qui placent notre dette vont aller chercher 285 milliards d'euros sur les marchés. C'est un record. Et ces dernières semaines, à chaque fois que nous avons demandé aux investisseurs d'acheter nos obligations, ils connaissaient le tableau des FIPU, des finances publiques, mais ils ont dit qu'ils étaient prêts à en prendre 2 ou 3 fois plus. En fait, ils aimeraient sans doute acheter beaucoup plus de triple A, d'obligations allemandes, mais comme il n'y en a pas beaucoup sur le marché, les double A, comme la France, sont très satisfaisantes. Mmh. Ce qui les rassure par-dessus tout, c'est le fait qu'on appartienne à la zone euro. On ne laisse pas un pays s'écrouler, le club exploser, quoi qu'il en coûte, comme a dit Mario Draghi. Et puis la France, elle a des banques solides, une stabilité politique, même si la situation est compliquée, et beaucoup d'épargne privée, ce qui laisse penser à nos créanciers qu'un gouvernement pourra toujours taxer les ménages et les entreprises pour les rembourser. Donc vous voyez, et contrairement à ce que pensent certains, la France n'est pas sur le chemin de la Grèce. Dans ce classement des agences, la Grèce se trouve 6 crans sous la France. La Grèce vient de sortir de la catégorie spéculative. Et nous, nous sommes notés quelque chose comme 16, 18 sur 20.
Ah quand même ?
Oui, ouais, c'est bien. Ah non, mais on est double A, haute qualité, Ali. Mais le prof, et il a tout à fait raison, continue de nous faire les gros yeux. L'élève se relâche, l'élève ne fait pas assez d'efforts. Là où d'autres pays qui ont connu les mêmes crises que nous ont réussi à améliorer leur profil financier. C'est le cas du Portugal, par exemple. exemple. Alors, vous connaissez la chanson du rappeur Orelsan, j'en suis sûre, c'est du propre. Comme disent les profs, c'est du propre. C'est plus possible, hein, c'est plus possible. On verra bien ce que dit le prof. Standard & Poor's, comme vous savez, on attend sa note le 31 mai, à 9 jours des européennes. Et là encore, le risque est beaucoup plus politique qu'économique.
C'est le prof principal, Standard & Poor's ?
C'est le prof qui a mis une perspective négative la dernière fois. Et donc, ça ouvre la voie à une dégradation. Mais ne crions pas au loup, même si la situation n'est quand même pas brillante.
Non, celle des FIPU. Merci Alexandra, on vous retrouve dans On n'arrête pas l'écho, juste après le journal de 9h avec...
Un géant mondial de l'eau, des déchets, de l'énergie, la directrice générale de Veolia, Estelle Brachlianoff, est notre invitée.
A tout à l'heure, il est 8h moins le quart, on va en reparler. Bonjour Jean-Philippe Ballas.
Bonjour Ali, bonjour tout le monde.
Ce matin, vous nous parlez d'une astronaute, elle vient de recevoir son diplôme, elle, et elle est française.
Oui, et c'est l'histoire d'une petite fille qui adore lever le nez vers le ciel, observer les étoiles à la nuit tombée, guetter la moindre machine volante. Cette petite fille s'appelle Sophie Adenau.
Dès qu'il y a un avion ou un hélico dehors, quand j'étais petite, littéralement, je courais, je sortais, je regardais. J'ai jamais cru que c'était possible pour moi. Petite Sophie, je ne pourrais jamais faire ça. Il y a une personne clé dans mon histoire, ça a été mon grand-père, qui me racontait comment, avec son marteau, sa caisse à outils, juste après la Seconde Guerre mondiale, il réparait les avions.
Et c'est ainsi que Sophie Adenau va tomber dans la marmite de l'aéronautique. D'abord un diplôme d'ingénieur, puis le grade de lieutenant-colonel dans l'armée de l'air. Elle devient la première femme pilote d'essai d'hélicoptère.
Ah oui.
C'est remarquable, mais pas encore assez haut. Alors ce sera l'Agence spatiale européenne. Il y a 2 ans, la jeune femme se retrouve sélectionnée parmi plus de 22 000 candidats.
Our 2022 class of ESA astronauts. Fascinating moment, I think, when you see what the astronauts have done. And I start with Sophie Adenau.
Et la voici aujourd'hui, astronaute, les amis, avec l'écusson officiel. Une émotion visible et une pensée pour tous ceux qui lui disaient de laisser tomber, que son objectif était inatteignable. Sophie Adenau, grosse bosseuse qui, accessoirement, parle 5 langues. Ah oui. Ça peut aider avec les collègues dans l'espace. Elle est aussi prof de yoga, ça c'est pas mal pour le stress. Et ses modèles sont surtout féminins.
Ce qui m'a permis d'avoir confiance en moi dans le parcours que j'ai eu, c'est quelques personnes clés. Des biographies, par exemple, Marie Curie et des personnes clés comme Claudie Agnoret. J'avais 14 ans quand elle a fait son premier voyage dans l'espace. Donc pour moi, ça a été un grand moment et presque un déclic en me disant « bon, il y a une autre femme qui est partie dans l'espace et j'aimerais cheminer vers ça ».
Claudie Agnoret, on s'en souvient, c'était la première spationaute française.
Absolument, Marion. À l'époque, elle s'appelle encore Claudie André Déhay, en partance pour la station Mir, archive de l'INA. Nous sommes le 17 août 1996.
Madame, Monsieur, bonsoir. Le rêve de Claudie André Déhay est donc devenu réalité cet après-midi à 15h17 exactement, quand la fusée russe a décollé de la base de Baïkonour.
Ça a été grandiose pour moi. J'ai découvert quelque chose qui était encore plus beau que ce que j'avais imaginé. Plein d'étoiles, c'est un ciel avec des milliards d'étoiles, la Voie lactée. On met son nez au hublot et on est dans le ciel.
Voilà le genre de témoignage qui fait rêver, forcément, oui. Surtout quand on a le goût de la science, comme Claudie Agnoret, comme Thomas Pesquet et comme Sophie Adenau, désormais. À 41 ans, elle poursuit son apprentissage d'astronaute, c'est une marche supplémentaire. Le premier voyage dans l'espace, ce sera peut-être en 2026, bref, comme dirait l'autre, vers l'infini et au-delà.
Merci Jean-Philippe Ballas et à demain, il est 7h48 sur Inter.
Le 6-9, Marion Lourd, Ali Badou sur France Inter.
Et notre invitée ce matin est une des nouvelles têtes de la liste Rassemblement National en vue des élections européennes du 9 juin prochain. Mathieu Vallet, 38 ans, ancien chef adjoint de la BAC du Val-de-Marne, ancien porte-parole du syndicat indépendant des commissaires. Bonjour Mathieu Vallet.
Bonjour Madame.
Bonjour.
Bonjour.
Invitation.
Bonjour.
Vous êtes une prise de guerre, comme on l'a dit cette semaine, ou vous êtes un boulet ?
Bah écoutez, je pense que c'est bien qu'il y ait des gens de la société civile qui s'engagent pour leur pays. J'ai servi mon pays pendant 20 ans, et donc je sais pas pourquoi en quoi je serais un boulet. J'ai la fierté d'avoir consacré 20 ans à protéger les Français. J'ai été médaillé, j'ai été félicité, j'ai été récompensé. J'en fais pas un étendard, ni ma vie, mon œuvre, ma guerre, mais en tout cas, je vais pas rougir d'avoir protégé les Français contre le terrorisme, contre les voyous, contre les émeutes, avec mes collègues dans les différents services, dont le dernier que vous avez cité.
Je vous pose cette question parce que on en a parlé déjà cette semaine, en novembre 2020, 2023, le Canard Enchaîné avait révélé que vous aviez empoché indûment près de 1000 euros de bons SNCF qui appartenaient à 5 collègues à vous. Blâme à la clé de la part de la préfecture de police. Et puis en août dernier, vous avez eu un accident qui a détruit une Peugeot 508 de service. Vous étiez à 40 km de votre lieu d'affectation et pas du tout en service. Est-ce que ça peut peser, selon vous, sur votre parti, si vous êtes sur la liste Rassemblement National?
Pas du tout. D'abord, je remercie Libération de s'être inquiété de ma santé lorsque j'ai un accident lié à les responsabilités d'un autre conducteur. J'étais dans mon bon droit. Si ce n'était pas le cas, mon administration m'aurait sanctionné. Et puis sur les bons d'achat, c'est très simple. C'est en fait ni immoral ni illégal. J'avais une proche dans le sud qui était très malade. Des collègues, par solidarité, qui sont des amis, m'ont donné leur bon. C'était une erreur d'utilisation parce que c'était pas prévu. Mais en tout état de cause, la sanction qui m'avait été infligée est celle qui est la moins grave dans l'échelle des sanctions de la fonction publique. Et en tout état de cause, ça ne doit pas résumer 18 ans de mon parcours professionnel. Il n'y a pas eu de détournement, comme je l'ai entendu. Il n'y a pas eu de malhonnêteté, sinon j'aurais été sanctionné et par la justice. Et l'administration a juste reconnu, comme dans le train, des fois, il faut faire une erreur sur le billet ou sur l'utilisation. C'est ce qui a été le cas, en fait, tout simplement.
Ils vous ont donné leur bon, mais vous n'avez pas pris le train, finalement.
Non, en fait, j'ai commandé les billets de train, j'ai dû les annuler liés à la maladie de proches qui étaient dans le sud, si vous voulez savoir.
Vous avez gardé l'argent?
Non, j'ai voulu le rembourser, mais on m'a dit que c'était pas nécessaire puisque c'était pas prévu. C'est la SNCF qui prévoyait le remboursement. Quand vous prenez un billet, il y a un remboursement qui est opéré. J'ai voulu rembourser tout de suite. On m'a dit non. Puis un an après, on m'a dit il faut rembourser. J'ai remboursé, en fait.
Faut pas être exemplaire pour être élu, à tout point de vue.
Ah bah écoutez, j'ai un casier judiciaire vierge. J'ai jamais eu de soucis avec la justice. J'ai jamais agressé, insulté, violé personne. Et donc j'estime que j'ai quand même un parcours exemplaire, un passif exemplaire, et que vous savez, j'ai géré des situations difficiles durant les émeutes, durant les manifestations, et j'ai jamais été condamné pour des violences illégitimes, ni pour un comportement contraire aux règles déontologiques. Donc j'estime que j'ai quand même une exemplarité à mettre en avant. Ce qui n'est pas le cas de certains partis qui ont des gens condamnés pour avoir frappé leur femme ou pour avoir pris partie des magistrats, des policiers. Moi, ce n'est pas mon cas.
Vous êtes sûr à 100% d'être sur la liste Rassemblement National le 1er mai prochain? Je vous pose la question parce qu'il y a certains membres de la liste qui finalement ont été refusés pour des propos qu'ils avaient pu tenir, par exemple. Est-ce que vous êtes certain à 100% d'y être?
Si je suis devant vous aujourd'hui, c'est que j'ai la confiance du parti, de Marine Le Pen et de Jordan Bardella. Et donc l'idée, c'est de parler des problèmes des Français, pas de la vie personnelle de Mathieu Chevalier. Et en tout cas, si vous voulez parler de ma vie professionnelle, je peux vous donner des certains faits que j'ai fait avec mes collègues, notamment sauver des gens qui étaient dans la difficulté, sauver des femmes qui étaient victimes de violences conjugales, sauver des enfants qui étaient maltraités. Mmh. J'ai quand même un passif assez important. Puis je suis la méritocratie républicaine, j'en suis fier. Je partais de rien, je venais de rien. Ma mère est d'origine espagnole, on a grandi dans une cité. Et vous voyez comme quoi on peut venir d'une cité, d'un milieu modeste et populaire, issu de l'immigration, et s'en sortir quand on aime la France, quand on respecte la France et quand on sert la France. C'est le plus beau des messages que je peux donner à tous ces jeunes qui veulent s'en sortir et à qui on explique qu'ils sont condamnés d'entrée de jeu par leurs conditions sociales ou par leur origine géographique ou leur origine ethnique.
On explique.
C'est-à-dire?
Vous dites, on explique.
Ah oui,
sont condamnés.
Écoutez, moi j'ai vécu dans des quartiers où la gauche entretenait un clientélisme électoral. Moi j'ai une professeure qui était membre du Parti Socialiste et élue locale. Elle m'expliquait que la politique, que les grandes études, que les grands postes de la République n'étaient pas faits pour moi parce que je devais rester dans la condition sociale dont j'étais originaire. Et ma mère étant femme de ménage, a travaillé à l'âge de 14 ans. Je devais à peu près suivre le même parcours parce que je n'en avais pas les capacités. Donc quand vous avez un message désastreux qui est celui-ci, vous n'avez pas envie de vous élever. Puis après on nous explique qu'il y a les colonies de vacances, qu'il y a les aides sociales, qu'il y a les allocations scolaires, que tout ça est fait pour entretenir une clientèle qui aujourd'hui ne veut plus être dans la cistanin et dans les discours victimaires que sont ces jeunes issus de l'immigration dont je fais partie et qui veulent s'en sortir par le travail, l'effort et le mérite.
Mais je vous demandais si vous étiez sur la liste parce que sur la liste Rassemblement National, il y avait un autre candidat qui était prévu, Saïd Ali Bouana Amissi, un Mahorais, qui avait tenu des propos complotistes et racistes. Il avait qualifié notamment les Comoriens de vermine et de cafards. Il va être écarté. Marine Le Pen, au départ, l'avait annoncé sur la liste finalement, il va être écarté. Est-ce que les dirigeants du Rassemblement National ont eu raison de prendre cette décision?
Oui, Jordan Bardella l'a annoncé dès jeudi sur une chaîne concurrente, enfin de France Télévisions, parce qu'on est dans le groupe du service public de l'information. Et donc, quand vous avez des propos qui sont avérés tels que vous l'avez décrit, effectivement, ça n'a pas sa place ni en politique, encore moins dans notre parti. Moi, vous savez, j'ai été policier 20 ans et j'ai lutté contre le racisme, contre la xénophobie, contre l'homophobie, contre l'antisémitisme. Je rappelle que depuis 2022, en 2023, on a eu une explosion par 4 des actes antisémites. Moi, en tout cas, avec mes collègues, à mon modeste niveau et dans le travail que j'occupais, je luttais contre ces fléaux qui minent la République.
Et est-ce qu'il faut garder sur la liste Thierry Mariani, qui a présidé l'association de dialogue franco-russe à l'Assemblée, qui a rencontré plusieurs fois Vladimir Poutine, qui a supervisé des opérations de vote en Crimée annexée, qui est visé par des enquêtes pour soupçons de corruption et trafic d'influence. Lui, il y sera mercredi sur la liste.
Bah, dis donc, vous le connaissez mieux que moi. Moi, je l'ai croisé une fois sur un plateau télé. Oui, d'accord, j'ai bien compris. J'ai l'impression que c'est un peu un réquisitoire contre le parti que je représente ce matin. Mais
pas du tout.
En tout cas, bah, on n'a pas encore parlé des problèmes des Français, des sujets européens qu'on propose. Mais on pourrait poser la question d'abord sur Emmanuel Macron. Il l'a reçu en grande pompe, Vladimir Poutine, au château de Versailles, lorsqu'il a été à peine élu. Lorsque la guerre en Ukraine a éclaté par la Russie, qui est l'envahisseur et l'agresseur de l'Ukraine, on voit que tout le monde a été surpris.
Donc, personnellement, ça ne vous gêne pas d'être sur la liste avec Thierry Marien?
Mais c'est pas moi qui décide de la liste, c'est Jordan Bardella et Marine Le Pen qui
font la liste. Mais personnellement, à titre personnel?
Mais je le connais pas. Et je pense que résumer la carrière de Thierry Marien à ce que vous dites, je pense que c'est réducteur. Avant, il était chez l'UMP et les Républicains. Et il me semble qu'il n'y avait pas le procès que vous lui faites ce matin. Donc, moi, écoutez, je vais d'abord le rencontrer. Je vais d'abord voir comment il se comporte. Moi, je juge les gens sur ce que je connais, sur ce que je travaille avec eux au quotidien. Moi, je ne juge pas des gens sur des on-dit, sur des rumeurs ou sur des articles que vous pouvez lire ici et là.
Je ne fais pas de procès, je pose des questions.
Bah, tout à fait, mais je vous réponds.
Alors,
je vous réponds franchement.
Est-ce que vous avez quitté la fonction publique?
Non, je suis en disponibilité. Alors, je vais même aller plus loin.
Pas démissionné?
Non, pas du tout. Je suis en disponibilité et je vais même aller plus loin. Légalement, je pouvais faire et campagne et occuper mes fonctions par ça. C'était pas interdit par la loi. J'ai fait le choix de faire de mettre à part mes fonctions pour pas faire de mélange de genre entre mon institution que j'ai eu l'honneur de servir pendant 20 ans et dont vous entendrez toujours que du bien parce que je suis fier d'avoir servi.
La police.
Et l'engagement politique. Oui, tout à fait, la police. Oui,
mais en l'occurrence,
j'étais policier pendant 20 ans, ouais.
Non, mais parce que vous appartenez à un parti où vous êtes sur la liste d'un parti qui juge que la police et la manière dont on la dirige est laxiste depuis des décennies. Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir participé depuis 20 ans à une institution laxiste, permissive, inefficace et qui manquait de moyens?
Non, là, je crois que c'est le discours de l'extrême-gauche que vous citez,
Alors, c'est vraiment le discours du Rassemblement National.
Ah, pas du tout. En tout cas, Jordan Bardella et Marine Le Pen n'ont jamais dit qu'il y avait des violences policières, des contrôles aux faciès, n'ont jamais jeté au pilori des policiers qui, lorsque même c'était difficile...
J'allais y venir, mais je parlais du laxisme.
Mais là, vous parlez de certaines décisions de justice qu'on critique parfois. Ah bah, en tout cas, moi, sur mon métier, je peux vous dire très simplement, les antifas qui, depuis des années, pourrissent les manifestations et qui viennent de l'ultra-gauche, en réalité, toutes les violences que vous avez eues lors des manifestations retraites, lors de la lutte contre la loi de sécurité globale, tout ça, c'est pas des gens du parti du Rassemblement National qui viennent mettre le chaos et le désordre dans nos rues. C'est des gens de l'ultra-gauche qui sont d'ailleurs souvent soutenus par l'extrême-gauche, ou en tout cas pas dénoncés par l'extrême-gauche. Quand vous prenez Louis Boyard de la France Insoumise qui revendique avoir été membre des antifas, ou en tout cas défendre la jeune garde antifasciste, c'est pas quelqu'un du Rassemblement National. Moi, ce que j'aimerais dans ce parti, dans le parti de Marine Le Pen et de Jordan Bardella...
Les groupes de l'ultra-droite, ça n'existe pas
c'était... Ah ben tout à fait, mais on lutte contre l'ultra-droite comme on lutte contre l'ultra-gauche, mais l'ultra-droite, c'est pas celle qui vient de pourrir la manifestation, vous demandez mon expérience. Moi, j'ai encadré des cortèges, et force est de constater dans le métier sur le terrain, j'aurais voulu vous voir à mes côtés, comme ça vous pourrez le constater aussi vous-même au-delà d'un studio de radio, c'est que on a des dispositions qui ont été proposées, on a lutté contre l'hooligan avec une loi qui permet au préfet interdire aux gens de venir dans les stades pour mettre le désordre. On avait proposé, à l'époque, quand j'étais syndicaliste, de faire la même chose pour ces antifas. C'est toujours pas le cas. Moi, j'estime qu'il faut protéger les manifestants pacifiques contre ces gens qui sèment le désordre et le chaos. C'est quelque chose, par exemple, qu'on mettra en place si les Français nous font confiance, en 2027.
Mathieu Vallet, Jordan Bardella, à la tête de liste, a présenté cette semaine le programme, une partie du programme, en tout cas les grandes lignes du Rassemblement National pour l'élection. Lutter contre l'immigration illégale et la concurrence déloyale, en quoi c'est vraiment si différent du programme de Besoin d'Europe de Valérie Ayer?
Ah bah de toute façon, il y a déjà un passif. Moi, je suis policier, le pacte...
Non, on parle du programme.
Oui, bah, tout à fait, je vais y venir, ne vous inquiétez pas. Le pacte asile-immigration, par exemple, personne n'en parle, mais il y a une disposition qui va bouleverser l'équilibre des services de police et de justice, c'est les mineurs non accompagnés ou mineurs étrangers isolés.
Il faut dire que ce pacte immigration n'a pas encore été adopté, il doit encore être validé
par les
27 États membres.
Tout à fait. Mais en tout cas, il est adopté par le Parlement européen, par la majorité dont fait partie Valérie Ayer. Et en tout cas, je vous donne quelque chose de très simple. Moi, j'ai travaillé à Barbès dans le 18e arrondissement, j'ai travaillé à Marseille, notamment au secteur Canebière, où vous avez une surreprésentation, c'est le ministère de l'Intérieur qui le dit, des délinquants étrangers, et dont une grande partie sont des personnes qui se disent mineurs étrangers isolés. Pourquoi? Parce qu'ils bénéficient de l'excuse de minorité, donc difficilement condamnables, parce qu'ils ne sont pas expulsables. Et avant le texte, vous aviez des tests osseux et des examens médicaux qui étaient pratiqués sur ces personnes qui se disaient mineurs et qui souvent sont majeurs.
Ça n'a rien à voir avec le pacte asile-immigration.
Je vais vous répondre, Ali Badou, laisse-moi finir.
Non, parce que j'ai lu en entier, en l'occurrence.
Moi aussi, je l'ai lu en entier, je ne suis pas encore analphabète. Je sais qu'on compare souvent les policiers à des analphabètes, mais c'est pas le cas, je vous rassure.
C'est pas du tout le procès que je vous faisais.
Et j'ai pas dit ça, mais en tout cas, je vous le réponds. Et donc, ces mineurs étrangers isolés à l'époque, s'ils refusaient les tests médicaux et les tests osseux, ils étaient considérés comme mineurs.
Ça n'a rien à
mineurs.
Voir avec le pacte européen.
Ah, mais si, c'est Fabienne Keller qui a produit cette disposition
qui dans
le pacte
d'asile
et d'immigration. Ah, mais si, tout le pacte a été adopté, c'est le paquet. Je vous avais dit texte, et il y a même deux textes pour lesquels
le Rassemblement des États membres devront se prononcer.
Ah, mais écoutez, en tout cas, je pense qu'il va être adopté puisque le Parlement l'a adopté. Les 27 États membres ont, vous le savez, le pouvoir de lancer ces initiatives puisque le Parlement n'a pas cette autonomie comme l'Assemblée nationale et le Sénat. Et donc, je vous dis que pour ces mineurs étrangers isolés, avec Fabienne Keller qui a participé à cette rédaction de texte, là, je dis pas de bêtises, c'est bien elle qui s'est occupée pour Renaissance de ce projet-là, elle a décidé que ceux qui refuseraient désormais de subir ces tests seraient considérés d'entrée de jeu comme mineurs et pas comme majeurs. Bah, pardon d'être technique, on n'a pas parlé beaucoup de sujets européens et pour une fois, j'aurais pu vous montrer que on a des idées et des propositions.
J'en doute pas, mais j'invite tout le monde, en l'occurrence, à aller lire ce pacte asile et immigration qui n'est donc pas encore adopté.
Mathieu Vallée, qui devrait donc être sur la liste Rassemblement National qui sera officialisée mercredi. Merci d'être venu sur France Inter ce matin.
Merci.
France Inter, partenaire de La Fleur de Buriti, un film de René Nader Messora et Joao Salavizza. Guidés par leurs rites ancestraux et leur amour de la nature, le peuple indigène Crao ne cesse d'inventer de nouvelles